Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission d'Hippiplette.
Au micro, Miyako, Louise et moi Laure. Comme la fois précédente, nous allons vous citer trois faits méconnus qui se sont déroulés un 19 novembre.
Au programme, Miyako nous parlera de l'ouverture du musée del Prado à Madrid. Laure continuera avec la légende du masque de fer. Et moi, Louise, je vous parlerai d'un fameux discours donné par le président américain Lincoln.
L'Hippiplette, vous êtes prête?
Oui, alors c'est parti. Avant de laisser la parole à Miyako, faisons une petite parenthèse sur un événement annuel hors du commun.
En effet, c'est la journée internationale des toilettes. Elle existe depuis 2001.
Cette journée n'a pas pour objectif de nous faire rire, mais plutôt de nous sensibiliser au fait que des milliers de personnes n'ont pas accès à des toilettes convenables.
Commençons par l'ouverture du musée du Prado à Madrid par Miyako.
Ce grand musée, qui accueille chaque année plus de 3 millions de visiteurs, a fait son apparition le 19 novembre 1819, peu après la fin de l'occupation française. C'est le roi d'Espagne, Ferdinand VII, qui ouvre au grand public le musée royal. En effet, l'endroit est un palais de Madrid qui tient son surnom de l'église voisine. Il est dénommé Prado de San Jerónimo. Il est aussi intéressant de noter que ce musée a été créé sur le modèle du musée du Louvre, un des tout premiers musées publics. Il s'en distingue car il n'est composé que de collections constituées par les monarques espagnols. Il ne contient rien qui vienne du pillage et des guerres de conquête. On trouve comme grands artistes Bartolomé Esteban Murillo, Diego Velázquez ou bien Francisco de Goya, que vous connaissez tous.
Alors, en voici une bonne idée si vous allez à Madrid. Ne manquez surtout pas le musée du Prado.
Sinon, au niveau musique, on peut citer Paco Montalvo.
Il est né à Cordoue le 19 novembre 1992. C'est un violoniste et musicien espagnol. C'est l'un des plus jeunes violonistes de notre temps. Il a eu la chance de débuter dans la grande salle du Carnegie Hall de New York. Pour le découvrir, voici un extrait de son album sorti en novembre 2015, Alma de Violín Flamenco.
Alors de nous raconter la légende du masque de fer.
Merci Louise. Mon histoire commence le 19 novembre 1703, vers la fin du règne de Louis XIV, à la mort d'un mystérieux prisonnier à la Bastille, à Paris. Cet homme d'environ 50 ans va être enterré sous le nom de Marchiali dans le cimetière Saint-Paul. Et il faut savoir qu'il était prisonnier depuis 20 à 30 ans. Il vécut d'abord dans la prison de Pignerol, une forteresse alpine située entre Briançon et Turin, jusqu'en 1681, pour être ensuite transféré au fort d'exil dans le Piémont jusqu'en 1687. Par la suite, il passa à Sainte-Marguerite de Lérins, une île en face de Cannes, jusqu'en 1698, et il finit sa vie à la Bastille avec toujours le même geôlier, Bénigne d'Auvergne, un ancien mousquetaire. 8 ans après sa mort, la belle-sœur du roi de France va le faire sortir de l'anonymat en le citant dans sa correspondance. Selon elle, c'était un milord anglais qui aurait comploté contre la France. La littérature et la légende vont donc s'emparer de lui pour le rendre célèbre et le surnommer le masque de fer, car personne n'avait vu son visage qui était caché par un masque de velours noir et non pas de fer en réalité. Son identité va susciter des hypothèses. Serait-ce un frère jumeau de Louis XIV, ceci est prétendu par Voltaire, ou encore le fils adultérien d'Anne d'Autriche et du duc de Buckingham? Ça pourrait aussi être le duc de Beaufort ou le bâtard du roi Charles II d'Angleterre. Alexandre Dumas va remettre, dans son livre Le Vicomte de Bragelonne, l'hypothèse d'un frère jumeau de Louis XIV né 8 heures après ce dernier. Mais il existe des possibles vérités. Le film, qui tient son nom, propose une version de l'histoire. Peut-être est-ce un valet mis en prison pour garder secrète une conversation sur la religion de Charles II d'Angleterre, et le masque permettrait de mystifier l'homme et donc de donner de l'importance aux responsables de la prison. Les historiens, eux, reconnaissent que c'est un agent double, car on peut retrouver des preuves dans une lettre datant de 1770. Il y a aussi la possibilité d'être un secrétaire traître qui aurait trahi un secret espagnol. Et la dernière hypothèse est que ce soit un domestique ayant pris la place de son maître pour libérer ce dernier.
Il existe plusieurs romans et films sur le masque de fer ?
Oui, Miyako. Le premier est tourné en 1929. Puis s'ensuit un deuxième en 1962 où l'on retrouve Jean Marais. Et le plus récent date de 1998 où l'on retrouve Leonardo DiCaprio. On vous laisse un instant avec un extrait de la bande-son du film Le Masque de Fer.
Et pour finir, retrouvons Louise et le discours de Lincoln à Gettysburg, qui s'est tenu le 19 novembre 1863.
Il y a 87 ans, nos pères ont, sur ce continent, mis au monde une nouvelle nation, conçue en liberté et vouée à cette idée que tous les hommes naissent égaux. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une grande guerre civile pour déterminer si cette nation, ou toute autre nation ainsi conçue et dédiée, peut durer. Nous nous rencontrons pour en consacrer une parcelle, comme suprême champ de repos, à ceux qui ont donné leur vie pour que la nation puisse vivre. Il est convenable, il est juste que nous le fassions.
Mais en un sens plus large, nous ne pouvons pas consacrer, nous ne pouvons pas dédier, nous ne pouvons pas sanctifier cette terre. Tous les héros, vivants ou morts, qui ont lutté ici, l'ont consacré de manière si haute que nous n'avons plus le pouvoir d'y rien ajouter, ni d'en rien enlever. Le monde remarquera peu ce que nous disons ici, et il ne s'en souviendra guère. Mais il n'oubliera jamais ce que des braves ont fait en ce lieu. C'est plutôt à nous, les vivants, d'être voués à la tâche encore inachevée qu'ils ont jusqu'ici si noblement accomplie. C'est plutôt à nous d'être dédiés à la grande tâche qui nous reste, afin que ces morts vénérés
nous inspirent un dévouement accru pour la cause qui leur a fait combler la mesure du dévouement. Afin que nous soyons fermement résolus à ce que ces morts ne soient pas morts en vain, afin que cette nation, devant Dieu, renaisse à la liberté, et afin que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne soit pas effacé de cette terre.
Abraham Lincoln, le 19 novembre 1863. Aujourd'hui, nous allons voyager jusqu'au 19 novembre 1863, jour où une phrase mythique que vous connaissez peut-être a été prononcée par Abraham Lincoln, alors président des États-Unis. The government of the people, by the people, for the people. Ou en français, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Elle vous dit quelque chose. Elle est en fait issue du discours de Gettysburg, prononcé lors de la cérémonie de consécration du champ de bataille, qui a fait 51 000 victimes américaines lors de la guerre de sécession.
Mais c'est quoi cette guerre exactement ?
Cette guerre oppose les États sudistes et les États nordistes des États-Unis. Elle est le résultat de 4 décennies de conflits entre les deux parties sur des questions économiques, politiques et sociale. La cause principale de cette guerre, c'est l'abolition de l'esclavagisme. Alors que le Sud fonctionne avec le travail de près de 4 millions d'esclaves noirs, le mouvement anti-esclavagisme gagne en popularité au Nord. Quand, en 1860, le républicain Abraham Lincoln, anti-esclavagiste, est élu à la présidence, les États du Sud se séparent, ils font donc sécession de l'Union, et la guerre du même nom commence.
C'est dans ce contexte qu'est prononcé ce discours. Un texte de 272 mots seulement, c'est-à-dire une dizaine de phrases, qui sont devenues un symbole de la démocratie américaine. C'est à la fois son contenu et son format peu conventionnel qui font sa force.
On peut diviser le discours en trois parties.
Dans la première, Lincoln fait allusion au travail déjà effectué pour construire une nation libre, où il cite la Déclaration de l'Indépendance.
Dans la deuxième partie du discours, l'objectif de la cérémonie est rempli, c'est-à-dire de rendre hommage aux soldats sacrifiés lors de la bataille entre le 1er et le 3 juillet. Il dit qu'aucune de ses paroles ne peut égaler le courage des soldats au combat.
Je cite « Tous les héros, vivants et morts, qui ont lutté ici, ont consacré de manière si haute que nous n'avons plus le pouvoir d'y rien ajouter ni d'en rien enlever. »
Dans la dernière partie, le président se tourne vers le futur en redonnant espoir mais surtout en appelant à continuer la lutte pour défendre l'Union et la démocratie dans le monde.
Aujourd'hui, ce texte qui a choqué pour son efficacité et sa breveté est appris par cœur par tous les écoliers américains. J'aimerais terminer en citant ce morceau de phrase du discours. Le monde remarquera peu ce que nous disons ici et il ne s'en souviendra guère. Et je voudrais dire à Lincoln à quel point il avait tort et comment aujourd'hui ses paroles prononcées à Gettysburg se trouvent parmi les plus connues au monde.
Voici pour illustrer ce discours « When Johnny Comes Marching Home ».
Une chanson populaire américaine écrite pendant la guerre de sécession par Patrick Gilmore, compositeur et chef de fanfare d'origine irlandaise. Elle est publiée sous le pseudonyme de Louis Lambert. Let's go!
When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah, we'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah. Oh, the men will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Get ready for the jubilee, hurrah, hurrah. We'll give the hero three times three, hurrah, hurrah. Oh, the laurel wreath is ready now to place upon his loyal brow. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. In 1861, hurrah, hurrah. That was when the war begun, hurrah, hurrah. In 1862, both sides were falling too, and we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home.
Les filles, l'émission se termine.
Oui, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, car on se retrouve le 17 décembre prochain pour un nouveau programme des Pipelettes.
En attendant, vous pouvez toujours aller sur notre site www.radio-lfb.net pour retrouver nos anciennes émissions.
Vous pourrez vous abonner, laisser des commentaires et télécharger notre programme.
On vous laisse avec Mambo No. 5 par Lou Béga, qui était le top 1 en France le 19 novembre 1992.
Au revoir et bon week-end.
Four, five, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna feel buzz like I had last week. I must stay geek, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good, let me in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica.